Bonsoir, frère Warren. Sois le
Bonsoir.
bienvenu parmi nous ce soir. Je te laisse la parole pour que tu puisses nous entretenir. Et voilà. Donc.
Amen. Merci Emmanuel, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Je suis Warren. Warren ou Jean Warren pour les autres, pour certains. Bon, je ne connais pas la majorité des personnes ici présentes. C'est même bien comme ça. Je rends grâce à Dieu. Avant de commencer, en fait, j'aimerais vraiment que l'on puisse prendre un petit moment pour accueillir davantage la présence de Dieu au milieu de nous. Que l'on puisse vraiment un peu plus prendre conscience de la présence du Saint-Esprit. Que l'on puisse vraiment permettre au Saint-Esprit d'accomplir ses œuvres au milieu de nous. Qu'à travers sa présence, vraiment, nos cœurs soient totalement ouverts à l'accueil de sa grâce, disponibles pour chacune des œuvres qu'il va opérer ce soir. Mais je crois, comme le thème l'indique, que tout est possible à celui qui croit, en fait. Et c'est pourquoi nous allons vraiment prier pour que le Seigneur puisse vraiment stimuler notre foi, puisse vraiment nous, on va dire quoi, faire en sorte que nos cœurs soit pleinement des cœurs d'adorateurs, donc ces cœurs que le Père recherche, et donc ces cœurs qui attirent pleinement la présence de Dieu et la gloire de Dieu en plénitude. J'aimerais vraiment que l'on puisse prendre un moment pour chanter en langue. C'est, on va dire quoi, c'est quelque chose de, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que lorsque l'on chante en langue, bien-aimé, on communie avec les anges du Seigneur qui nous permettent de rentrer pleinement dans l'atmosphère céleste et de bénéficier de toutes les grâces rattachées à cette atmosphère-là, donc la plénitude de la grâce, en gros. J'aimerais que, comment tu te sens, toi? En même temps, tu vas, pendant que tu pries en langue, j'aimerais que tu puisses aussi avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui souhaiteraient peut-être se connecter, mais qui n'ont pas la possibilité de le faire, qui ont on va dire quoi, des blocages qui font en sorte qu'ils ne puissent pas se connecter. Quand je parle de blocage, ça peut être lié à une activité qui vient comme se mettre comme un obstacle. Ça peut être n'importe quoi, vraiment permettre au Seigneur, enfin demander au Seigneur de faire grâce à ces personnes-là de se connecter. Seigneur, merci pour tes anges. Seigneur, nous demandons un peu plus de toi. Seigneur, nous demandons vraiment que notre atmosphère de prière soit saturée par la présence de tes anges. Seigneur, merci pour les anges que tu envoies qui sont comme des guerriers. Que tu envoies, Seigneur, pour nous aider, pour nous accompagner, Seigneur. Merci pour cette atmosphère. Merci, mon Dieu, pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Seigneur, merci vraiment pour cet aperçu de la présence angélique que tu m'as fait ressentir il y a à peu près 1 heure de cela. Et Seigneur, vraiment rentrer pleinement dans cette grâce. Seigneur, viens pleinement disposer nos cœurs, disposer nos vies, Seigneur, à accueillir ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons te bénir, mon Dieu, pour ta fidélité. Nous voulons t'honorer, Seigneur, pour qui tu es. Seigneur, nous voulons vraiment rentrer dans cette année avec toi, cette année qui va commencer dans quelques moments, dans quelques jours, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, juste de toi.
Nihemana habasotokola hemata la rebo.
Seigneur, pour ta présence, merci pour tes anges au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta gloire déjà palpable. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes de gloire en gloire. Et ce soir, Seigneur, c'est ce que tu désires faire dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses... Est-ce qu'il y a une personne qui peut ouvrir son micro, s'il vous plaît? Voilà, qui va répondre un peu à mes limites. J'aimerais que... Est-ce qu'il y a une personne qui a ouvert son micro? Je ne sais pas qui a ouvert son micro. S'il vous plaît, une personne, juste une personne. Juste une personne. J'aimerais que où tu te trouves, tu puisses simplement répéter ce mot prophétique. Où tu te trouves, répète frère, le mot prophétique.
Frère Warren, oui? Un instant. Alors, s'il vous plaît, comme pour les soucis, pour pouvoir qu'on s'entende bien, il y a besoin qu'il y ait une personne disponible, chez qui se calme, qui ouvre son micro pour pouvoir indiquer à chaque fois au frère Warren si on entend bien et pour pouvoir bien indiquer si on le suit. Donc, s'il vous plaît, une personne ouvre son micro. Ah, on a le frère Yann. Merci beaucoup, Yann.
Merci. Merci, Yann. Merci. OK. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Bon, je ne vais pas demander à répéter parce que je suppose que chacun l'a déjà fait. Donc, le thème de ce soir, le thème qui nous réunit est le suivant. Le réveil de la foi. Le réveil de la foi. Et je vais le développer par une approche définitionnelle pour nous permettre de comprendre le sujet, le thème, de façon plus simple. Et donc, du coup, je vais commencer par définir le réveil, ce que c'est que le réveil. On va dire de la définition la plus simple, avec la définition la plus simple possible, une définition terre à terre, telle qu'on la conçoit, et je vais contextualiser cette définition-là par rapport au thème. Donc, la première définition du réveil que je vais donner est la suivante. Le réveil, c'est le fait de se réveiller, de passer du sommeil à l'état de veille. C'est un moment... Le réveil, c'est le fait de se réveiller, de passer du sommeil à l'état de veille. Le réveil, c'est un fait. Pour quelque chose, de revenir à l'activité après une période d'arrêt de repos. Cette deuxième définition me parle beaucoup et je pense qu'elle parle aussi à certaines personnes ici. Le réveil, c'est un fait. Pour quelque chose, de revenir à l'activité après une période d'arrêt de repos. Mmh. Le réveil, encore une définition un peu plus littéraire et on va dire un peu plus imagée. Le réveil, c'est l'action de sortir de son aveuglement, de reprendre conscience de la réalité. Et dans le contexte qui est le nôtre, c'est la réalité de la foi, la réalité justement de la vie chrétienne, la réalité du miraculeux, la réalité des œuvres de Dieu en général. Et ensuite, on va définir la foi. Mais avant de définir la foi, je vais donner le texte clé, le texte qui va nous accompagner, le texte de base de notre enseignement, de notre prédication. Le texte est tiré de notre enseignement dans ce cas. Le texte est tiré du livre de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 1. Et il dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'apôtre Paul le répète encore, enfin l'apôtre Paul nous le dit, La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je veux répéter encore ça, en fait, pour que ce soit un peu plus clair dans nos esprits, en fait. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi je répète ça? Parce que on dit tout le temps foi, j'ai la foi, je vais avoir la foi. Mais il nous faut vraiment comprendre ce que c'est que la foi pour réellement y adhérer, pour réellement permettre au Seigneur de nous faire grâce de cela. Parce qu'on ne peut pas expérimenter quelque chose qu'on ne comprend même pas en vérité. Ça va être difficile. Et donc là, maintenant, je vais donner quelques définitions de la foi. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles ou incontrôlables. Donc la foi la foi nous amène à croire même lorsque nous n'avons pas encore vu. La foi, en fait, prend tout son sens dans le fait que ce en quoi nous croyons, nous ne le voyons pas encore s'accomplir. Et c'est ce qui donne la puissance à la foi. C'est justement parce qu'on ne voit pas encore ce qu'on demande s'accomplir que la foi, en fait, c'est ça la foi. Donc, dans la mesure où on commence dans la mesure où on voit déjà, on est déjà dans l'accomplissement de ce à quoi on a cru. Mais la foi commence lorsqu'on ne voit pas. La foi commence lorsqu'il n'y a pas encore de signes concrets de ce qu'on demande au Seigneur ou ce que le Seigneur nous a promis. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande justement d'avoir foi pour voir sa gloire, pour voir sa gloire se manifester dans nos vies. La foi est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. La foi est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous croyons en Dieu. Nous croyons en la puissance de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas encore cette puissance s'accomplir au moment où nous commençons à mettre en action cette foi-là. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, pensent que la foi est fermement déjà liée à une certaine forme d'accomplissement de la prophétie. Non, c'est même lorsqu'on a l'impression que tout est compliqué, que rien n'est encore concret, que notre foi doit être déjà en activité. Et voilà pourquoi, bien-aimés, d'une certaine manière, le Seigneur nous dit, il faut que nos vies prospèrent comme prospère l'état de nos âmes. En fait, là, le Seigneur s'adresse déjà à des personnes qui ont déjà, on va dire, une certaine forme d'activité de la foi. Mais c'est encore une foi, on va dire, assez théorique. Parce que la foi, pour une certaine catégorie de chrétiens, est une foi qui est basé sur la conscience de la présence de Dieu, la conscience de la puissance de Dieu, sans réellement vivre le concret de cela. Et voilà pourquoi Saint Jacques va nous amener à comprendre que la foi sans les œuvres est vaine. Voilà pourquoi Saint Jacques va aussi nous dire que montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi, la foi. Et à ce moment précis, par l'intermédiaire de l'apôtre Jacques, le Seigneur nous fait comprendre qu'à un moment donné, la foi a besoin d'œuvres. La foi a besoin d'actions, d'activités qui la justifient pleinement. Et c'est pourquoi, bien-aimés, après la première partie, qui est le fait de croire en des réalités invisibles, en tout cas tout ce que j'ai eu à dire là, par rapport aux définitions. À un moment donné, le Seigneur nous amène à poser des actes concrets qui justifient notre foi. Je m'explique. Je prends un exemple simple. Quelqu'un à qui le Seigneur a promis du travail, par exemple. Tu vas mettre ta foi en activité lorsque tu vas commencer à te, à, on va dire quoi, tu vas commencer à te comporter comme quelqu'un qui va bientôt travailler. Tu vas commencer, déjà la première chose, ce qui est tout à fait logique, c'est que tu vas postuler comme tout le monde. Tu vas commencer à te former. Tu vas même préparer, même déjà, on va dire, tu vas même préparer déjà les vêtements qu'il faut pour commencer le boulot. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ton avenir. Tu vas te comporter comme quelqu'un qui est dans l'attente, comme quelqu'un qui sait que le Seigneur fera à un moment donné. Tu peux l'appliquer à ta situation particulière. C'est-à-dire que ta foi devient une foi agissante lorsque tu commences à opérer.
Allô?
Donc, je disais que tu vas commencer à expérimenter, à voir ta foi être en action. La foi nécessite à un moment donné des œuvres concrètes. Peut-être que jusqu'à présent, tu demandes des choses au Seigneur, mais ta foi est trop passive, en fait. Ta foi est trop passive. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux telle chose. Et ensuite, tu restes là de façon passive. Tu ne fais rien, en fait, pour amener, pour, on va dire quoi, pour prouver au Seigneur que tu crois, en fait, en ses promesses. Et c'est pourquoi ce soir, bien-aimé, nous devons rentrer réellement dans cette activité de la foi-là. C'est la même chose, en fait, pour les miracles. C'est la même chose pour le ministère. Sans action concrète, ça va être difficile de récolter, en fait, ce qu'on demande au Seigneur. Et ce soir, pour cette année même qui va commencer, le Seigneur veut nous appeler à réellement avoir une foi active, une foi beaucoup plus concrète, bien-aimé. Dieu sait que nous croyons tous hein, en Jésus-Christ. Dieu sait que nous savons qu'il est puissant. Dieu sait. En fait, tu vas demander à la plupart des personnes, même les personnes qui ne vont même pas à l'église, il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'elles croient en Dieu. Je connais même des gens qui vont à l'église de temps en temps ou qui vivent leur vie de façon ordinaire, mais qui de temps en temps, à des périodes précises, vont prier parce qu'il y a quand même une conscience d'une réalité supérieure et tout, de Dieu et tout ça. Mais ce qui fait la différence avec les chrétiens en vérité, ou du moins les adorateurs en esprit en vérité, c'est que l'adorateur va être à l'écoute de l'Esprit. Et de toute façon, le Saint-Esprit, si tu as son écoute, va forcément te pousser à mettre ta foi en action. Une personne qui ne pose pas des actes concrets, en vérité, soit doit avoir un souci, en fait. Parce que le Saint-Esprit va te pousser à poser des actes concrets. Tu veux prêcher, par exemple, l'Évangile, le Saint-Esprit va te pousser forcément à prêcher l'Évangile à une, deux personnes en commençant. Le Saint-Esprit va forcément te pousser à te mettre dans des situations peut-être que tu n'expérimentais pas avant pour annoncer l'Évangile. Et c'est à partir de ça, en fait, que les œuvres de puissance, les œuvres de l'Esprit vont se manifester. La foi, là je vais d'abord revenir sur ce qu'est la foi en elle-même, parce que là je suis allé un peu en avance. La foi procède de la révélation que Dieu donne de lui-même à l'homme. Autrement dit, c'est le Seigneur qui en réalité met en nous la foi. Autrement dit, c'est le Seigneur qui en réalité met en nos cœurs lui-même le désir de le suivre, le désir de voir ses promesses être accomplies, le désir de voir sa gloire être manifestée. Mais c'est à nous simplement d'adhérer à cela. Et c'est là le plus gros problème. Parce que notre nature humaine, notre nature pécheresse aura tendance à nous rappeler que nous ne sommes pas dignes de voir justement ses œuvres être accomplies. Et c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons continuer à croire, nous devons nous efforcer, enfin, par l'Esprit de Dieu, à croire aux promesses de Dieu sur nos vies. Pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'Esprit et la parole de Dieu. Et là, ce que je dis là s'adresse particulièrement aux personnes qui sont appelées à la mission, aux personnes en fait qui sont appelées à être des témoins. En d'autres termes, nous tous ici présents, parce que si nous sommes disciples de Jésus, nous sommes tous, excusez-moi, appelés à la mission. Beaucoup de personnes ici prient pour la conversion de leur famille, beaucoup de personnes ici prient pour des personnes autour d'elles, mais la vérité, c'est que c'est par nous, c'est par chacun de nous que Dieu veut passer, en fait, pour opérer ses œuvres. Pour opérer ses œuvres. Et ce soir, bien-aimé, le Seigneur veut réellement nous faire entrer là, dans cette dynamique-là de la mission, nous pousser à avoir réellement des cœurs missionnaires. Et bien-aimé, moi, je crois fermement en la puissance de Dieu. Je crois fermement que ce que Dieu dit, il le fait. Et si le Seigneur dit qu'il suscite des personnes, qu'il appelle des personnes pour cela, c'est qu'il veut et peut réellement le faire, si nous lui permettons. Et ce sera à chacun de nous, ce soir, de prendre la décision où il se trouve de réellement rentrer dans cela. Et là, quand je parle d'appel à la mission, c'est vraiment appel où tu te trouves, dans ton activité quotidienne. Je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est vraiment dans ce que tu fais au quotidien que le Seigneur veut t'utiliser, que le Seigneur veut manifester sa gloire. Et bien aimé, nous sommes dans une période assez particulière où les hommes, en général, sont poussés vers l'excellence, sont poussés vers une certaine forme d'accomplissement. Et donc, du coup, on va remarquer que la plupart, ça va être assez compliqué. Vous m'entendez?
Oui, oui.
Ok, merci. Donc, on va se rendre compte que ça va être assez compliqué pour certaines personnes de pouvoir évangéliser si elles ne sont pas dans leur couloir. Quand je parle de couloir, c'est le lieu où Dieu t'appelle. C'est le lieu où Dieu t'appelle à exercer. Moi, par exemple, je suis dans le domaine bancaire. Je dois évangéliser de façon concrète à l'extérieur de mon travail. Mais dans mon travail aussi, je dois évangéliser par mon style de vie, par l'excellence dans ce que je fais. C'est un exemple concret. Chacun de nous, où il se trouve, doit évangéliser à travers son style, à travers sa vie, à travers l'excellence dans ce qu'il ou elle fait. Parce que, bien aimé, le monde dans lequel nous sommes a besoin de voir un peu plus, en fait. C'est un monde assez désenchanté, c'est-à-dire que les gens ne croient plus. Comment expliquer ça? Les gens ont besoin du concret. Les gens ont besoin de quelque chose, de choses solides pour pouvoir réellement croire. Je me souviens quand j'étais à l'école, j'avais souvent des débats avec certains gars. J'ai un ami musulman, par exemple, avec qui j'avais souvent des débats lorsqu'on était à l'école. Mais ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que le gars, dans sa manière de vivre, c'est quelqu'un de bien au fond, mais en fait, il a tellement eu à peu près tout ce qu'il voulait, que dans sa manière de vivre, tu peux avoir l'impression qu'il n'a pas besoin de Dieu. Bon, il croit en Allah, il croit, on va dire, à la divinité, mais ce n'est pas quelqu'un qui a fait l'expérience de Jésus-Christ de façon concrète. Et donc, pour quelqu'un comme ça, je ne pourrais pas l'évangéliser genre en mode par quoi. Je ne pourrais pas l'évangéliser en parlant, par exemple, de comment Dieu bénit financièrement, parce que c'est quelqu'un qui est béni financièrement. Je ne pourrais pas évangéliser le gars par quoi? Par le fait que Dieu puisse, par exemple, faire sortir de certaines circonstances, parce que c'est quelqu'un qui... Parce que comme on dit, Dieu donne sa grâce sur les bons et sur les mauvais. C'est quelqu'un qui, peut-être parce qu'il a un bon cœur, voit quand même des choses se passer dans sa vie. Peut-être qu'il croit, il croit certainement, mais peut-être pas comme nous, ouais. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui donnera certainement sa vie à Christ lorsque, de façon concrète, il verra la différence même dans l'excellence des choses qu'il fait de façon quotidienne. Je prends un exemple. Je vais expliquer ça de façon plus simple. Il y a ce qu'on appelle l'efficacité et l'efficience. Lorsqu'on est efficace, c'est qu'on est capable d'atteindre des objectifs avec les moyens qui nous sont donnés. Et lorsqu'on est efficient, c'est qu'on est capable d'atteindre des objectifs, voire un peu plus que les objectifs qu'on devait atteindre, mais avec des moyens beaucoup plus réduits. Et donc, du coup, l'exercice de la foi fait en sorte que, dans des situations improbables, la puissance de Dieu soit manifeste. Et donc, pour quelqu'un comme ça, il faudrait qu'il voit des miracles s'accomplir. Il faudrait qu'il voit des choses qui sortent de l'ordinaire s'accomplir. Et donc, chacun de nous, ce soir, doit réellement viser l'excellence dans ce qu'il fait pour pouvoir justement permettre à la gloire de Dieu de se manifester un peu plus. Je me souviens, il y a quelques années de cela, celui qui, on va dire, la personne qui a été comme mon premier mentor, on va dire ça comme ça, et qui m'a formé à la prédication, nous avait réuni un certain nombre de jeunes et moi, et on était en train de prier. Ce qui me surprenait beaucoup avec le gars, en fait, c'est que il savait que nous tous, la plupart qui étions présents, avions des appels au ministère, des appels à la prédication, à la prophétie et à plein d'autres choses. Et lui-même, d'ailleurs, il était champion dans cela. Mais j'ai remarqué une chose, c'est qu'à un moment précis, il ne nous parlait pas vraiment de cela. Mais il nous parlait beaucoup plus de notre attitude intérieure et de notre conduite dans la société, en fait. Et je me souviens même que, pendant qu'on était en train de prier, il a demandé, en fait, aux personnes, par exemple, qui trichent en classe, de se manifester. Il y a des gens qui ont levé leurs mains. Je crois qu'il a prié pour ces personnes se sont repenties. Et je ne sais pas, j'en connais un, et je vois que le gars, en fait, aujourd'hui, il a excellé vraiment dans ses études. Ouais. Et c'est pour dire, en fait, que cette année qui commence, c'est une année où le Seigneur ne s'attend pas seulement à manifester sa gloire dans le ministère, mais il s'attend à ce que sa gloire dans nos vies soit manifeste dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Malheureusement, les chrétiens passent beaucoup par l'exercice du ministère, l'exercice des charismes, pour justifier leurs échecs, pour justifier leurs manquements. Or, l'œuvre de Dieu n'est pas l'endroit où on doit, on va dire quoi, se réfugier lorsqu'on est incapable d'assumer notre état d'être humain, lorsqu'on est incapable de nous laisser transformer par le Seigneur dans tous les domaines de nos vies. Et c'est pour ça, bien-aimés, que l'Évangile a du mal à atteindre une certaine limite. On va remarquer que dans la société, c'est difficile, en fait, de voir, par exemple, des chrétiens atteindre une certaine dimension. Ouais. Je ne suis pas là en train de... Ce que je dis là, ce n'est pas pour commencer à promouvoir l'évangile de la prospérité ou quoi que ce soit de ce genre. Ce que je veux juste nous faire comprendre, c'est que comme le prophète Daniel, il y a des personnes ici que Dieu aimerait positionner, en fait, à des lieux stratégiques. Mais il faudrait déjà commencer à produire des œuvres qui vont vous permettre à ces personnes-là de rentrer dans cette dimension-là. Pas pour que vous puissiez vous glorifier vous-même, non, mais pour que la gloire de Dieu soit réellement manifeste. Pour que la gloire de Dieu soit réellement manifeste, bien-aimé. Malheureusement, où je travaille, il y a beaucoup de francs-maçons. Et dans la façon de penser des gens, on a l'impression vraiment que pour atteindre une certaine dimension, il faut forcément rentrer dans ces choses. Et bien aimé, moi je le déclare aujourd'hui, je sais que j'irai beaucoup plus loin que ces personnes-là sans rentrer par ça. Parce que je crois en mon Dieu, je crois en la puissance de Dieu. Je crois que Dieu, de même qu'il a élevé Joseph comme premier ministre d'Égypte, est capable en fait de lever son serviteur, qui que ce soit. Où tu es, tu peux dire amen à cela pour ta propre vie. Amen. Comme je disais, le but là, c'est pas juste que tu commences à aimer l'argent plus que tout. Non, non, non. C'est que tu aimes Dieu, mais que tu sois tellement amoureux de Dieu que tu puisses avoir le désir de payer le prix pour pouvoir permettre à Dieu de te positionner où tu dois réellement être positionné. Amen.
Amen.
C'est ce que Dieu veut, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu va faire. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Je vais laisser quelques secondes pour que tu puisses réellement laisser ces paroles convaincre ton cœur, remplir ton cœur et permettre vraiment au Seigneur de te faire rentrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Avant de continuer, on va faire une légère pause où on va vraiment comme permettre au Seigneur de véritablement accentuer cette œuvre qu'il est en train d'opérer au milieu de nous. Bien aimé, la foi, comme je l'ai dit, est certes une foi qui doit être active, mais l'objet de la foi même est une personne. C'est Dieu lui-même révélé en Jésus-Christ. Le but, justement, de tout ce que je viens de dire là, c'est Dieu lui-même, en fait. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est justement c'est ça, en fait, l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien-aimés. Et nous devons voir plus loin. Nous devons voir plus loin, mes frères et sœurs. La vraie foi, la foi obéissante, se démontre par des actes visibles qui en manifestent la réalité. Rappelons-nous ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que Saint Jacques nous dit. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par tes œuvres que je te montrerai la foi. C'est par les œuvres que je te montrerai la foi. C'est par les œuvres que je te montrerai la foi, bien-aimé. Je me souviens, quand j'étais en première année, j'étais dans un, on va dire quoi, malheureusement, je dis malheureusement parce que ce n'est pas une bonne chose, j'étais dans un groupe où il y avait, je vous assure, en tout ce qui concerne les œuvres de l'esprit, il y avait ça. Si on pouvait même voir les gens s'envoler, je vous assure qu'on devait voir les gens s'envoler dans mon groupe en question. Mais il y avait un gros problème au sein de ce groupe, c'est que les vies des gens n'avançaient pas. Et les vies des gens n'avançaient pas parce que le Seigneur ne voulait pas bénir, en fait. Mais c'est parce que les gens, comme je disais, justifiaient, on va dire quoi, n'assumaient pas, en fait, leurs défauts et se cachaient dans l'expérience charismatique, en fait, pour se consoler. Et donc, du coup, malheureusement, je suis un peu tombé dans ça parce que lorsque je me concentrais un peu sur mes études, Les autres frères avaient tendance à me dire que ouais, je suis un peu trop charnel, je suis trop concentré sur les choses du monde et tout, alors qu'en vérité, c'était mon devoir d'état. Et donc, du coup, ça a un peu affecté le début de mes études. Et je me souviens même qu'une fois, je vous assure, j'avais un examen, je n'avais pas travaillé, je n'avais pas du tout travaillé pour me préparer pour l'examen en question. Et moi, j'étais en mode, j'ai la foi en Dieu! J'ai la foi en Dieu, j'ai la foi au Saint-Esprit. Dès que j'arrive à l'examen, comme ça, je me mets à prier en langue. J'avais carrément osé croire que sans travailler, j'allais avoir la moyenne parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. Je vous assure que je me suis mis à prier en langue au début du devoir. Et j'étais tellement, on va dire, habitué à écouter des témoignages de miracles que je pensais en fait que je n'avais plus besoin de faire aucun effort et le Seigneur allait automatiquement tout faire. Je me suis mis à prier en langue au début du devoir. Les gars, le Saint-Esprit était là à profusion. Ça, c'est clair. Je sentais la présence de l'Esprit dans toute la salle de classe. Mais les gars, les autres étaient en train d'avancer. Moi, je n'avançais pas. Je n'avançais pas, en fait. J'ai eu 4 à l'examen, là. J'étais déçu. Je me dis, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Et pourtant, j'ai prêché il y a quelques jours. Il y a eu des miracles. J'ai fait des trucs. Mais comment tu m'abandonnes alors que je suis dans un devoir comme ça, Seigneur? Comment ça? Et bien aimé, j'étais dans ce groupe et les gens, c'était un peu la façon de penser que ce groupe m'inculquait. Parce que je rencontre justement mon coach qui était prédicateur international, qui m'a coaché pendant quelques mois. Et je vous assure que les quelques mois que j'ai passé avec lui, où on se voyait toutes les semaines, pendant ces quelques mois, les fois où on a abordé le sujet de la prédication, c'était les fois où moi, je lançais le sujet. Et pourtant, il sait que je suis prédicateur, vu que j'étais dans son école de prédication. Mais il ne m'a jamais parlé de la prédication pendant ces premiers mois. Certainement parce qu'il savait que j'avais un problème. Ouais. Et c'est à ce moment-là, par la grâce de Dieu, que j'ai compris que je ne devais pas seulement impacter dans l'annonce concrète de l'Évangile, mais que je devais aussi impacter dans ce que dans mon devoir d'État, dans tous les domaines, dans tous les lieux où je devais me retrouver. Et à cause de ça, à cause de cette façon de faire aussi, j'avais du mal à prêcher l'Évangile au premier de la classe, en fait. Parce que certains se moquaient de moi en me disant, mais tu pries Dieu, mais tu n'as pas la moyenne, par exemple. Tu n'as pas eu la moyenne à tel devoir. Et c'est à partir de là, bien aimé, que je me suis remis au travail. Et avec le temps, j'ai commencé à gagner le respect des premiers de la classe. Et donc, j'ai évangélisé à l'un d'eux. Il m'a écouté, bien aimé. C'est pour vous dire, en fait, que tu ne pourras atteindre certaines personnes que si ces personnes-là se voient en toi, en fait. Je ne sais pas si je suis clair. Si ces personnes-là te voient comme un modèle, il y a des personnes que tu pourras évangéliser seulement de cette manière-là. Je ne sais pas où tu travailles. Si tu es une personne honnête, si tu es une personne qui ne vole pas au travail, si tu es une personne qui est rigoureuse dans son travail, c'est d'abord par ton attitude-là que tu vas te rendre crédible aux yeux de ces personnes. Et le jour où le Seigneur permettra que tu puisses parler de lui à cette personne-là, c'est à cause de ton comportement que cette personne-là pourra t'écouter et va accepter le Christ. Et bien aimé, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est à cette dimension que Dieu nous appelle. Parce que, bien aimé, il y a encore beaucoup de gens à évangéliser. Il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin de connaître le Christ, je vous assure. Qu'on n'imagine même pas. Il y a des personnes même qui ne connaissent pas Christ, pas parce que elles n'ont jamais, pas parce que en fait elles ne veulent pas donner leur vie à Christ, mais parce que les chrétiens qu'elles voient ne leur donnent pas envie de devenir des chrétiens. Souvent, ça va être la personne qui évangélise, qui insulte, qui passe le temps aussi à insulter les autres au travail, qui passe le temps à manquer de respect aux autres à la maison. Mais en quoi est-ce que nous sommes chrétiens si, en quoi est-ce que notre foi est manifeste, bien aimé, si dans ces choses-là, on ne sait pas réellement manifester la gloire de Dieu. Bien-aimé, je me souviens que, personnellement, je crois que c'est la même chose pour beaucoup parmi nous. Moi, j'ai donné ma vie à Christ parce que j'ai vu en face de moi des personnes qui manifestaient réellement ce qu'ils prêchaient, ce qu'elles prêchaient. Moi, j'ai donné ma vie à Christ parce que j'ai vu un grand frère, un aîné, être complètement transformé par l'amour de Dieu. J'ai vu un aîné décider de sortir de la fornication et de se voir, en fait, et de voir comment sa vie de galère a changé du jour au lendemain. Et moi, ça m'a boosté, en fait. Et je me suis dit, en voyant ce gars, ce grand, que je voulais vivre, connaître le même Jésus que lui, il connaît. Bien-aimé. Ce que je dis, bizarrement, je l'ai expérimenté dans ma propre vie aussi. Pourquoi? Parce que on a besoin, le monde a besoin de voir des œuvres concrètes pour croire au Seigneur. Personnellement, je suis quelqu'un, en tout cas pour les personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un qui m'ennuie vite en fait. Je m'ennuie vite des gens. C'est-à-dire que si je suis dans un milieu et que je n'aime pas seulement le terre à terre, si je ne vois pas des choses concrètes, j'aurais tendance à partir. Et c'est comme ça que la plupart des gens se comportent. Et aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de manifester Christ, de façon concrète. Ta foi va être stimulée par tes habitudes quotidiennes aussi. Par les moments que tu prends dans la présence de Dieu de façon quotidienne, ta foi va être stimulée. Ces petits moments-là, ne les néglige pas en fait, parce que c'est dans ça que le Seigneur sème petit à petit des grains qui vont devenir des arbres et que tu vas simplement du jour au lendemain te rendre compte en fait de la portée de ces fruits-là. Ne néglige pas ton appel, ne néglige pas qui tu es, ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Ne te compare pas aux autres, mais crois aux promesses, crois simplement aux promesses de Dieu pour ta vie. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, et ça, j'ai dit ça il y a quelques temps à une collègue qui m'embêtait, je ne sais même pas trop ce qu'elle me disait et tout. Et c'est comme si elle voulait me pousser à sortir des paroles. En fait, à sortir des paroles bizarres. Et moi, je lui ai raconté une petite histoire. Je lui ai dit, je ne sais pas si j'allais écouter cette histoire, mais il y a une histoire à moi qui me touche beaucoup. Voilà, c'était lié à un problème au travail, je crois, et il y a des gens qui réagissaient d'une certaine façon. Et en fait, elle s'attendait à ce que je réagisse de la même façon. Et c'est comme ça que je lui ai raconté cette histoire. Je lui ai dit, il y a un roi en France, je crois que c'était Louis XIV, qui, pendant la Révolution française, avait été, je crois que c'était lui, je peux me tromper, il avait été capturé par des révolutionnaires. Et du coup, ceux-ci l'obligeaient à sortir des paroles grossières, à dire n'importe quoi, hein, vraiment des paroles grossières. C'était encore un enfant. Et lui, il a dit, non, il ne peut pas dire ça, en fait. Parce que celui qui le viendra plus tard, il ne peut pas prononcer ce genre de paroles. En fait, il voyait déjà son avenir. Et il disait, un roi ne parle pas de cette façon. Et à cause de ça, à cause de la conscience de qui il était dès son enfance, il est réellement devenu roi. Il est réellement devenu roi. Et en fait, c'est un peu la même attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas souvent. Nous sommes chrétiens, nous sommes forts en œuvre, nous sommes forts en parole. Mais dans l'attitude quotidienne, malheureusement, on n'est pas souvent ce qu'on prétend être. Et c'est là que le Seigneur nous attrape. C'est là où le Seigneur veut nous amener. Le Seigneur veut vraiment nous amener à prendre conscience justement que la foi, cette foi-là dont nous parlons quotidiennement, bien-aimé, c'est aussi l'acceptation de tout ce que le Seigneur nous recommande de faire. C'est aussi l'acceptation du fait que, étant chrétien, nous devons avoir la nature de Christ. Enfin, nous devons devenir semblables au Christ. Nous devons devenir semblables au Christ en tout point. Et c'est ce qui impacte réellement. C'est ce qui impacte réellement, mes bien-aimés. Parfois, je suis même gêné quand je vois des personnes écouter des louanges à longueur de journée, mais insulter aussi les autres à longueur de journée. Moi, je vois des gens comme ça souvent. Et je me dis, bon, souvent j'ai honte parce que je me dis, ah, mon Dieu, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, en fait. On ne peut pas brader le nom du Christ comme ça. Si on parle de Jésus, il faut que nos vies, de façon concrète, témoignent de qui on parle. Ouais. Il faut que nos vies, de façon concrète, témoignent de celui qu'on décide de suivre. Je préfère même que tu te taises si tu sais que tu n'es pas sur le point de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu plutôt que de pousser des gens à s'éloigner de la foi à cause de ton mauvais caractère. Et là, je viens encore de me souvenir d'une phrase que mon mentor avait eu à dire le jour en question, en parlant justement à des jeunes qui ne faisaient pas d'efforts sur le plan scolaire. Je parle de ça parce qu'à cette époque, je faisais encore des études. Et il a dit un truc qui m'a touché. Il a dit, à cause de vous, on se moque du nom de Jésus. À cause du fait que vous ne preniez pas au sérieux vos études. À cause du fait que vous ne preniez pas au sérieux votre travail. Je dis ça comme ça aussi. À cause du fait que vous ne preniez pas au sérieux l'image que vous donnez de vous chez vous, on se moque du nom de Jésus. Et quelque part, on est responsable de cela. Et donc, chacun de nous doit devenir responsable de l'importance que les gens accordent au nom de Jésus à cause de ce que ces personnes-là voient de nos vies. Bien-aimés. Il y a trop de chrétiens au Gabon, il y a trop de chrétiens de nom au Gabon, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui impactent. Parce qu'on ne prend pas souvent, on prête pas souvent attention à ces petits détails-là. Malheureusement, je le dis haut et fort, malheureusement, le milieu charismatique nous a faussement fait croire que, à cause de l'expérience du Saint-Esprit, on n'avait plus rien à faire, en fait, pour s'améliorer. On n'a aucun effort à faire. C'est-à-dire que, bon, chacun doit me prendre comme je suis, ou le Seigneur va me changer avec le temps. Bien-aimé, il y a des choses que le Saint-Esprit change comme ça, oui, je suis d'accord. Mais il y a des choses que le Seigneur fera dans nos vies uniquement avec notre accord. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui passent toute leur vie, par exemple, sans se marier, à cause de sa caractère, par exemple. C'est des personnes parfois qui prient en langue du matin au soir, mais qui pensent qu'en vérité, elles n'ont aucun effort à faire pour devenir de meilleures personnes. Et ça, bien aimé, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité à nous. Bien aimé, le réveil de la foi dont nous parlons, ce n'est pas simplement un réveil pour les œuvres de puissance. C'est réellement un réveil aussi par rapport à notre foi sur l'accomplissement des promesses de Dieu sur tous les domaines de nos vies. Même sur ton comportement. Est-ce que tu es une bonne personne? Est-ce que quand tu te regardes aujourd'hui, tu peux dire de toi que tu es une bonne personne? Tu peux dire de toi que, bon, c'est vrai que je vais à l'église, je fais telle ou telle chose. Moi, personnellement, quand quelqu'un me dit qu'il va à l'église, je suis toujours en mode, OK, et développe, en fait. Qu'est-ce que tu me dis de plus? Parce qu'aller à l'église, tout le monde fait ça, en fait. Tout le monde peut aller à l'église, tout le monde part à des veillées de prière. Je vois beaucoup de gens qui me disent qu'ils partent à des veillées de prière, qui sont à l'église du dimanche, du lundi au lundi, mais en vérité, qui, lorsqu'elles vivent de façon quotidienne, ne me donnent pas envie d'être chrétien. C'est-à-dire que si je n'avais pas peut-être fait mon expérience, en regardant ces personnages, j'allais me dire, bon, mieux je vis ma vie tranquille, comme tout le monde, en fait, plutôt que d'aller dans cette mascarade. Et je me souviens même d'ailleurs que j'ai même tardé, en fait, pour donner ma vie à Jésus. On m'a déjà attendu une année supplémentaire à cause de ça. Parce que je me suis dit, bon, on m'avait invité dans un groupe de prière. Je connaissais toutes les personnes du groupe de prière. Je savais que dedans, il y avait des gens qui se couchaient entre eux. Il y avait des gens peut-être qui volaient. Je connaissais déjà tout le monde, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, moi, je ne suis pas saint. Donc, du coup, je préfère faire mon désordre dehors plutôt que d'aller faire mon désordre à l'église. Parce que quand même, là-bas, c'est assez délicat. Mais il a fallu que je voie un grand qui avait une vie vraiment, pour moi, qui était un témoignage vivant, que je décide de donner ma vie à Christ, en fait. Moi, j'ai été touché par ce grand-là, d'abord par sa foi, par son comportement, parce que c'était quelqu'un d'exemplaire, par son attitude par rapport à son travail. Moi, ça m'a touché de ouf. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, je suis quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'ambition sur le plan scolaire, sur le plan professionnel. Et donc, du coup, certainement le Seigneur le savait. Donc, du coup, pour moi, il fallait quelqu'un qui ait réussi dans ce domaine-là pour que je puisse croire en Dieu, pour que je puisse voir que Dieu est réellement puissant. Ouais. Parce que jusqu'à ce que je vois ce gars-là, je voyais que des chrétiens, bon, qui ne me donnaient pas envie, en fait. Et je pense qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui vivent comme ça, qui veulent croire en Dieu, mais qui n'ont pas suffisamment de modèles. Et ce soir, le Seigneur veut t'interpeller, mon frère, ma sœur, parce qu'il veut que tu sois réellement le modèle qu'il faut pour que les personnes autour de toi puissent se convertir, puissent lui donner leur vie. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je vous assure que ce que je sortais de Dieu là, je n'ai pas prévu de dire ça comme ça. En fait, je n'avais même pas prévu m'attarder sur ça. Mais moi, je crois que rien n'arrive par hasard. Je ne crois pas au hasard. Je crois que tout ce qui se passe dans ma vie, et certainement dans la vie de mes frères et sœurs, est le produit de la grâce de Dieu. Et que lorsque le Seigneur permet quelque chose, c'est réellement parce qu'il a un but derrière. C'est réellement parce qu'il a un but derrière, mes bien-aimés. Et j'aimerais terminer par ça, par ce passage tiré du livre d'Habacouc, au chapitre 2, au verset 3, qui dit ceci. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. » Car elle s'accomplira certainement. J'aimerais que tu dises amen à cela où tu te trouves.
Amen.
Amen à cela. Bien-aimé, toutes les fois où j'ai mis ma foi en, 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 en œuvre. Toutes les fois où j'ai déclaré des paroles sur ma vie et où j'y ai cru, bien aimé, j'ai vu la gloire de Dieu se manifester. J'ai vu la puissance de Dieu. Je ne parle pas seulement des choses que j'ai vues dans la vie d'autres personnes, mais je témoigne aussi de ce que j'ai vu se produire dans ma propre vie, bien aimé. Je ne dis pas que ça a toujours été linéaire, que j'ai toujours cru à 100% tout le temps, parce qu'on est des êtres humains, il y a souvent des moments de faiblesse, ou à cause des situations de la vie, il peut arriver que la foi défaille, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Et ce qui est bien, en fait, c'est que ce que Dieu attend de nous, c'est que lorsqu'on se rend compte que notre foi défaille, que l'on se tourne simplement vers lui, en fait, pour justement laisser notre foi être à nouveau boostée. Mais je pense que c'est possible d'avoir une foi justement qui ne chavire pas. C'est possible d'avoir une foi constante. Et c'est pourquoi nous devons simplement être constamment en Dieu. Amen.
Amen.
On va arrêter par là.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Merci beaucoup, frère Warren.